Binge Audio, Stéphane. Binge Audio. Je sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane. Je connais pas de Stéphane. Hein.
C'est le nouveau vague à l'âme que devront décrire les poètes du 21e siècle. Un sentiment entre la culpabilité et la mollesse, comme si on se réveillait d'une étrange sieste. Quand on lève les yeux de son téléphone après avoir fait défiler des kilomètres de vide sous ses pouces. Cette morsure fine et précise qui nous rappelle qu'on a laissé filer quelques instants de notre libre arbitre contre une décharge en boucle de dopamine. Toutes les heures que nous passons sur notre téléphone, sur nos téléphones, nous les passons à visionner une réalité ultra personnalisée. Un monde taillé sur mesure pour nous, selon nos opinions politiques et notre personnalité, pour susciter en nous de l'engagement. L'engagement, c'est soit de la colère, soit de la compassion. L'imagination n'existe pas, affirmait Sartre. Non, notre esprit n'invente rien. Nos pensées et nos rêves ne sont que des réinterprétations. Des réinterprétations de tout ce que nous lui soumettons, tout ce que nous voyons, entendons, lisons. Interrogez les jeunes enfants, ils sont très nombreux à rêver en dessin animé. Et nous ? Est-ce qu'on pense en reels, en tweets, en photos Insta ? Est-ce qu'à force de naviguer dans un univers binaire qui suscite en nous soit de la compassion, soit de la colère, on n'est plus capable de voir le reste du monde autrement ? Frances Haugen, ex-ingénieure de Facebook à l'origine d'une importante fuite de documents internes, a témoigné pour la première fois à la télé américaine. La firme a volontairement caché une étude démontrant les effets délétères d'Instagram sur la confiance en soi des adolescents. Elle a également menti sur ses efforts pour contenir les discours haineux. À peine 5% des discours de haine sont modérés sur Facebook. 5%. Et ces révélations sont intervenues la même semaine où Facebook et tous ses services qui en dépendent, Instagram et WhatsApp, ont fait l'objet d'un bug mondial pendant 6 heures. Bug qui a révélé au monde entier notre dépendance à leurs services. Alors, est-il déjà trop tard ? Pouvons-nous encore nous libérer ? Notre téléphone a-t-il déjà aspiré notre âme ?
Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi ?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On peut plus rien dire.
C'est une immense joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui au sein de cette troisième édition d'On peut plus rien dire. Mettez-vous à l'aise, vous êtes ici chez vous, on est ensemble pendant 45 minutes. Et un grand merci aussi à vous qui êtes venus nous écouter en live à la Gaîté Lyrique. Chaque semaine, nous nous retrouvons donc pour répondre à une question autour de l'actualité. Celle de cette semaine, elle est plus sérieuse qu'elle en a l'air. Mark Zuckerberg a-t-il pris le contrôle de votre esprit ? Votre téléphone a-t-il aspiré votre âme ? Avec nous pour répondre à cette question, deux personnes qui travaillent grâce à ces fameux réseaux sociaux. Guillaume Fruitillou, vous êtes le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Linkfluence, spécialisée dans l'analyse des médias sociaux. Vous êtes également prof à Sciences Po, où vous enseignez le web social. Elvire Duvert-Charles, journaliste, réalisatrice, activiste féministe, vous êtes derrière le compte Instagram Clit Révolution et avec 13 autres influenceuses, vous avez assigné Instagram en justice pour les contraindre à révéler leurs conditions de modération. Et vous êtes aussi l'autrice d'un livre sur les réseaux sociaux et le féminisme qui paraîtra l'hiver prochain. Elvire Duvert-Charles, vous avez, si je ne me trompe pas, 122 000 followers sur Instagram. Enfin, sur votre compte Instagram professionnel qui est Clit Révolution. Quel rapport vous entretenez avec Insta ?
Un rapport d'amour et de haine, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que Instagram, ça a été un outil assez fantastique, notamment pour la révolution sexuelle qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, ça a été un outil militant très précieux. Moi, avant de militer sur Instagram, j'étais activiste féminine, donc j'ai un peu testé différents types d'activisme. Et c'est vrai que Instagram, ça reste un outil qui permet une communication hyper directe entre des personnes qui potentiellement vont aller s'engager derrière et nous. Et c'est vrai que dans un premier temps, on avait vraiment cette grande histoire d'amour avec Instagram et avec aussi les autres Instagrammeuses qui menaient un travail assez complémentaire du nôtre.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le même amour ?
Non, aujourd'hui, on est plus dans « c'est compliqué ». Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que on est en train de prendre conscience progressivement qu'en fait, on est complètement dépendante d'Instagram, non pas dans un terme d'addiction, même s'il y a une forme d'addiction, mais plus nos luttes dépendent de ça et tiennent un fil, puisqu'en fait, on vit de plus en plus la censure. Que ça soit les comptes féministes, comme les comptes LGBT, comme les comptes décoloniaux. Et en fait, il y a vraiment cette vague de censure qui était un peu là depuis le début. Sauf qu'en fait, au départ, elle était beaucoup plus simple à comprendre, puisqu'en fait, il y avait des posts qui étaient supprimés ou des comptes qui étaient supprimés.
Parce que le problème, c'est que quand on est militant ou militante et qu'on se sert d'Instagram, c'est que du jour au lendemain, si la plateforme décide qu'on a enfreint certaines règles, on peut se voir complètement, voir tout son travail qu'on a fait disparaître.
Tout peut disparaître du jour au lendemain. Et dans ces cas-là, c'est ce qui s'est passé pour plusieurs comptes. Je pense par exemple au compte de Jouissance Club, mais au compte de La Prédiction aussi. Enfin, plein de comptes qui disparaissent et où en fait, on n'a pas... Enfin, nous, notre blague entre Instagrammeuses, c'est de dire qu'il n'y a que des robots, en fait, et que peut-être que potentiellement, ils n'ont pas d'être humain, parce qu'en fait, on a toutes les peines du monde à pouvoir parler à quelqu'un et dire « je pense qu'il y a une erreur, mon compte a été supprimé, je ne comprends pas, ce que j'ai fait et qui ne correspond pas aux conditions, etc. »
On va revenir plus longuement sur l'action en justice que vous avez menée contre Instagram. Guillaume Fouettillou, vous passez combien d'heures par jour sur votre téléphone ?
Alors ça, c'est une bonne question. Je peux vous répondre, mais pas depuis si longtemps, depuis que les téléphones portables ont mis en place les outils qui permettent de suivre le nombre d'heures qu'on passe. Donc je peux vous le dire en toute transparence, je crois que je dois être à une moyenne de 2h10, 2h20 par jour
sur le téléphone. Ça va, c'est pas
tant. Alors, mais je pense que c'est une mauvaise question, par contre, je suis désolé, je commence à être très désagréable dès le début de l'émission. Je pense que c'est une mauvaise question, c'est comme les questions sur le temps d'écran, en fait. La question est de savoir qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone. Et aujourd'hui, effectivement, ces 2h20 pourraient être considérées comme étant catastrophiques ou pourraient être considérées comme étant extrêmement vertueuses. Et donc, évidemment qu'on passe un temps fou devant les écrans. Je travaille dans le monde du numérique. Si vous me demandez le nombre d'heures que je passe devant mon écran d'ordinateur, on pourrait rajouter 6, 7, 8 heures peut-être aux 2 heures que je viens d'évoquer. Mais après la question, voilà, que fait-on ? Et d'ailleurs, les outils, je pense qu'il y a un progrès là-dessus. Les outils vous permettent de savoir exactement le temps que vous passez sur les sites d'information, sur les réseaux sociaux, sur les messageries instantanées, sur le web, sur YouTube, sur Twitch, etc. Et donc, c'est là où vous avez vraiment une meilleure vision du temps que vous passez sur votre téléphone.
Qu'est-ce que c'est que cet effet bulle de filtre qu'on dénonce souvent comme une des conséquences les plus importantes des réseaux sociaux ?
Bah écoutez, alors la bulle de filtre, c'est un concept qui s'est démocratisé effectivement et qu'aujourd'hui on entend de plus en plus dans l'espace public, mais qui est cette idée selon laquelle en fait les plateformes sociales du web vous servent des contenus qui vont vous renforcer dans vos présupposés ou dans vos propres attirances.
C'est quelque chose dont on a à peu près tous fait l'expérience, je pense, beaucoup sur Instagram, par exemple. Au bout d'un moment, on est soumis toujours au même type de contenu, toujours au même type d'opinion politique. On a l'impression que tout le monde pense comme soi.
Alors, il y a une reproduction du même, mais en fait, il ne faut pas oublier en fait, d'où viennent les bulles de filtre. Pourquoi est-ce que les plateformes se sont mises à développer justement ces algorithmes qui vous servent du même ? Tout simplement parce que, en tant qu'être humain, on fonctionne sur des principes d'homophilie. À partir du moment où on est proche de gens qui nous ressemblent, où on est au contact d'idées qui sont alignées avec ce que l'on pense, on est rassuré. Être dans un territoire d'homogénéité produit du bien-être. Être mis face à des choses qui vont à l'opposé de ce que l'on pense, c'est effectivement intellectuellement peut-être positif et excitant, mais il n'empêche que ça crée de l'inconfort. Et donc ça, c'est tout simplement la nature humaine qui est faite comme ça. C'est la différence entre ce que vous voudriez faire ou ce que vous voudriez être et ce que vous êtes réellement. C'est la différence entre le soir, vous vous dites « je veux voir un film, ça fait des années que je veux voir cette Palme d'Or magnifique de 1967 que je n'ai jamais vue » et vous terminez devant Netflix à regarder une horreur et le lendemain matin, vous vous dites, en fait, raté. Voilà. Et bien, en fait, on va vers les choses qui nous contentent, on va vers les choses qui nous ressemblent, on va vers les choses qui ne nous font pas bouger, finalement, naturellement. La question,
et
c'est...
Et on y est encouragé encore plus par les réseaux.
Et est-ce que les réseaux, en fait, sont là pour nous servir ce que l'on, en réalité, ce qui nous contente, ou est-ce qu'ils sont là pour un petit peu venir nous secouer, nous remuer ? C'est ça la question de fond, en fait.
Elvire, vous, qui passez tout ce temps aussi donc, sur Instagram, qu'est-ce que ça fait d'y passer autant de temps, de penser tout le temps à comment on construit sa communauté, comment on diffuse son message qu'est-ce que ça a changé en vous?
En fait, c'est hyper aliénant. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est réjouissant. Et je pense qu'il faut aussi comprendre le modèle. Je veux juste rebondir sur ce qui a été dit. Le modèle économique d'Instagram et de Facebook, etc., c'est quand même de nous faire passer un maximum de temps sur nos écrans et sur l'application pour nous mettre un maximum de publicité. Et du coup, en fait, Instagram encourage, quand on est côté créatrice de contenu, Instagram nous encourage à poster de plus en plus de contenu. Et si on ne produit pas assez de contenu, en fait, on est invisibilisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas apparaître dans les premières stories que tu vas voir quand tu allumes ton téléphone.
Faut poster tous les jours, toutes les heures.
Non, mais c'est hallucinant. En fait, moi, j'ai perdu le fil. Donc, en fait, ça y est, moi, j'ai renoncé à cette visibilité-là parce qu'en fait, je me rendais compte que pour suivre le rythme, je faisais plus que je faisais d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas mon métier d'être sur Instagram. Et du coup, je pouvais plus produire des documentaires, aller faire des enquêtes, aller en manif, organiser des actions, etc. Et en fait, ça parasite progressivement parce que forcément, il y a aussi cette histoire de dopamine où du coup, on s'est habitué à être beaucoup vu, beaucoup partagé, etc. Et donc, c'est compliqué, en fait, de renoncer à ça pour faire des choses plus intelligentes. Et moi, ça m'a mis un certain temps avant de prendre conscience du fait qu'en fait j'avais été paralysée parce que il y a une activité chronophage comme ça qui est de jour en jour et donc tu te dis ah mais là c'est bon, j'ai juste à poster ça, je vais poster telle question et tel machin, mais en fait entre temps t'as une centaine de personnes qui t'ont écrit, à qui il faut répondre et du coup en fait c'est un gouffre de temps et d'énergie parfois pour rien. Et en fait,
j'ai l'impression
d'un
espèce de vortex dans l'espace qui aspire, qu'il faut toujours nourrir avec du contenu, et qui sera jamais rassasié, quoi.
Oui, et en fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a vraiment cette idée de, enfin, toutes les personnes qui ont des gros comptes Instagram le savent, quand on poste pas pendant quelques jours, dès qu'on va reposter, on va avoir moins de visibilité. Et donc, en fait, ça nous laisse pas la possibilité de faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire, maintenant, ce que je fais, c'est quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Oui. Mais la visibilité n'est plus du tout la même parce qu'en fait il faudrait combler tout le temps, enfin c'est un truc on est même poussé à ça, c'est-à-dire maintenant sur quand j'ouvre mon Instagram, il y a Instagram qui me dit venez prendre rendez-vous avec quelqu'un pour vous expliquer comment faire plus de reach en faisant des nouveaux reels.
Ah, ils proposent du coaching gratuit
bien sûr,
aux créatrices
puisqu'on travaille gratuitement pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, on produit du contenu gratuitement pour eux, pour que derrière, ils puissent comprendre qui aime quoi et qui va aller acheter la paire de chaussures de chez André ou de chez Minelli. J'ai rien contre eux. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée-là de pouvoir cibler et comprendre un maximum les personnalités. Et donc, nous, on leur sert juste pour aider à comprendre si elle préfère des chaussures rouges ou des chaussures noires dans son feed.
Voilà, on a commencé direct assez combatif contre les réseaux sociaux. Je me sens quand même obligée de poser cette question. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, le féminisme serait aussi puissant s'il n'y avait pas eu Instagram?
Je saurais pas complètement répondre à cette question parce que dans les années 70, il y a eu des choses incroyables qui se sont passées et on n'avait pas Instagram. Ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir MeToo, qui a participé à une prise de conscience collective de ce que sont les violences sexuelles et à une meilleure définition aussi de ce qu'elles sont. Et ça a permis clairement une mobilisation. Je pense que c'est pas anodin que aujourd'hui on ait des marches qui soient plus grandes en fait que. Enfin, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu des marches aussi grandes féministes dans la rue. Et surtout, ça nous permet de nous trouver entre nous, c'est-à-dire de trouver que les activistes se trouvent entre elles, s'organisent. Il y a vraiment c'est un outil d'organisation qui est très précieux. Là où, à l'époque, même il n'y a pas si longtemps, moi je me souviens, chez Femen, en 2012, tout s'organisait. On avait juste une boucle mail sur Gmail et après, c'était les réunions. Il y avait des réunions tous les mercredis. Et tous les mercredis, on décidait de qu'est-ce qu'on allait faire, quelle était la veille informatique qu'on faisait, etc. Donc je pense qu'en ça, ça a permis aussi à certaines d'être moins isolées. Ouais. Parce que là, on est à Paris, mais en fait, dès que tu es en dehors de Paris, ça peut être plus compliqué. Et ça a permis aussi de faire circuler les informations. Donc, je ne peux pas non plus dire que ça n'a pas,
ça n'a pas
joué dans
Guillaume Fautillou, c'est votre métier, du coup, d'analyser ce qui se passe sur Internet. C'est un vaste métier. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que des mouvements politiques comme le féminisme, mais pas forcément celui-là, ou aussi les prises de conscience écologiques, elles auraient pu émerger sans les réseaux?
Alors, c'est une question extrêmement importante parce que ça permet de revenir un petit peu sur la nature du numérique et la nature des réseaux sociaux. Ils ne sont ni bons ni mauvais par essence. Ce sont des outils d'amplification. Ce sont des outils d'amplification qui donnent un pouvoir qui est unique dans l'histoire de l'humanité à l'ensemble des citoyens. Jamais dans l'histoire, en fait, il n'y a eu cette capacité que n'importe lequel ici dans cette salle, vous dans le public, là actuellement, vous avez tous votre téléphone portable et vous pouvez le sortir et vous avez la possibilité d'aller sur une plateforme quelle qu'elle soit et de trouver peut-être la punchline du siècle ou le mème du siècle, et avant la fin de cette émission, vous aurez peut-être fait un contenu qui, d'ici la fin de la journée, aura touché 3 milliards de personnes. Ce que nous serons incapables de faire, nous, ici, alors que nous sommes sur une scène médiatique. Donc cet empouvoirment, il est totalement unique. Et c'est pour ça qu'il faut... Il faut être mesuré. On est dans une période de retour de bâton sur le numérique où le numérique est la cause de tous nos malheurs. Et tu le disais, vous êtes dans une relation d'amour-haine avec Instagram, vous en tant que productrice de contenu. Mais aujourd'hui, on ne fait que parler des effets négatifs aujourd'hui des réseaux sociaux. Il faut voir ce qu'ils nous ont apporté à partir du moment leur arrivée. Milieu des années 2000, explosion de ces plateformes-là qui ont permis une démocratisation. Il ne faut pas oublier que le web, qui est inventé en 91, jusqu'en 2000 à peu près, c'est uniquement un lieu sur lequel vous avez une élite intellectuelle, éduquée, technologiste, technologue, qui peut l'utiliser. Entre 2000 et 2005, vous avez les blogs, c'est un début de démocratisation, mais quand même, pour écrire un blog, il fallait quand même avoir la capacité à se mettre en avant, à se mettre sur un piédestal, à dire les journalistes étaient très bons là-dessus, les communicants étaient très bons, les politiques, mais ce n'était pas tout le monde. Et tout d'un coup, vous avez les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux, c'est la démocratisation. Et cette démocratisation, en fait, elle fait que tout le monde s'exprime. Et quand tout le monde s'exprime, eh bien, effectivement, ce n'est pas aussi policé que lorsque seule l'élite s'exprime. Et ceux qui se battaient pour la libération de la parole sur les réseaux sociaux au début des années 2000 sont ceux qui appellent à sa régulation aujourd'hui. Mais parce qu'ils étaient dans des univers feutrés, entre gens bien éduqués, entre gens qui se ressemblaient. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, on a des voix qui apparaissent, qui sont des voix qui nous déplaisent, parce que la population dans son ensemble s'exprime sur les réseaux sociaux. Une dernière chose par rapport à ça, juste pour illustrer ça, aux États-Unis, parce qu'on a des chiffres, mais je pense que c'est à peu près la même chose en France, les réseaux sociaux, en fait, sont la source d'information principale de seulement 18% de la population. Donc en fait, c'est faux, c'est 80% radio, presse, télévision.
Pour en revenir, la question qui était posée, qui était pour savoir les mouvements politiques, les mouvements sociaux, selon vous, si j'ai bien compris, oui, les réseaux sociaux ont permis leur amplification. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est cette idée d'amplificateur. C'est qu'il y a des mouvements politiques dans la société et que les réseaux viennent pousser un peu les curseurs, ils viennent un peu doper ce qui existait déjà dans la vraie vie, comme on dit.
Et pour le meilleur et pour le pire. Et donc, ça fait qu'effectivement, vous avez des communautés qui n'auraient pas pu avoir droit au chapitre auparavant, qui vont pouvoir effectivement se retrouver, se rassembler. C'était l'idée, c'était la promesse initiale du village global. L'idée du village global d'Internet, c'est pas qu'on fait tous village, c'est que chacun peut construire son village avec n'importe qui dans le monde. Donc vous avez pu vous retrouver avec d'autres personnes féministes qui n'étaient pas forcément dans un milieu parisien centralisé, au travers la France, qui venaient de milieux différents. Vous êtes rassemblés, vous êtes coordonnés, vous êtes organisés et vous êtes devenus médias.
D'accord, mais aujourd'hui, on le sait, et c'est dénoncé peut-être tous les jours dans les médias, à quel point toute parole qui est un petit peu dissidente dans la société, une parole féministe ou une parole décoloniale, etc., se prend mais des tonneaux de harcèlement. On ne parle pas d'une parole pas feutrée, là, on parle d'une parole qui est illégale, même normalement, on n'a pas le droit de harceler les gens.
Et en plus, c'est pas tant le harcèlement qui me dérange, j'espère ne pas être harcelée en disant ça, mais
le fait que déjà vous soyez obligé de dire ça, c'est
que l'algorithme,
grave.
Pour moi, c'est plus l'algorithme qui est dangereux, ouais. C'est-à-dire qu'on dépende de ça pour se faire entendre et que donc du jour au lendemain, la visibilité et donc la voix qu'on a peut être réduite. Ce qui n'était pas le cas au départ.
Complètement, par une décision arbitraire de l'entreprise.
Voilà, en fait, à un moment, il y avait vraiment ce truc-là de quand tu vas sur Instagram, le premier post que tu vois, c'est le dernier post qui a été posté et après tu remontes chronologiquement. Là, il y a une sélection par un algorithme tout puissant dont on ne connaît pas les formules et qui change en permanence, de qu'est-ce qu'on va pouvoir voir. Et moi, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est pas tant l'existence d'un réseau social que le fait que ce réseau social-là décide de ce que je vais pouvoir voir ou pas, et des arguments, des posts, des informations auxquelles je vais avoir accès ou d'autres auxquelles je vais pas du tout avoir accès.
C'est ça, parce que personne ne voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Personne. Dès que une image, par exemple, est postée sur Instagram, elle est analysée en quelques millisecondes par les logiciels d'analyse d'image d'Instagram et ils décident, ils lui donnent un score et décident est-ce qu'elle est poussée très haut, est-ce qu'elle est poussée moyen haut, est-ce qu'elle est poussée très bas, etc. Et ces façons dont sont calculés les scores, enfin ces façons dont sont montrées ou pas certaines images, est-ce que vous pensez que ces formules-là, elles devraient être publiques? Est-ce que, par exemple, l'État devrait contraindre Instagram à dire comment il choisit de mettre en avant ou pas tel contenu?
Moi, je pense que non seulement elles devraient être publiques, mais surtout, on devrait les choisir. C'est-à-dire, en fait, moi, j'aimerais pouvoir dire, Judith Duportail, ses posts, je les vois une fois sur deux. Guilhem, je veux voir absolument tous les posts qu'il poste, ça, de temps en temps, quand il y a un truc qui fait le buzz, je veux bien le savoir. En fait, ce serait intéressant que nous-mêmes, on puisse choisir de nos algorithmes et de qu'est-ce qu'on veut voir dans notre curation de contenu, quels sont les sujets qui nous intéressent, etc.
Alors, c'est de plus en plus le cas, hein. Déjà, il y a des plateformes. Déjà, il faut pas effectivement parler du numérique, c'est comme de dire parler des gens ou parler même des réseaux sociaux. C'est trop général en fait. Chaque plateforme a ses modes de fonctionnement. Twitter s'est battu pendant très longtemps pour ne pas céder à l'organisation algorithmique et à la sélection, présélection des contenus, l'ordre antéchronologique. Donc, vous voyez uniquement les contenus les plus récents sans aucune sélection a été maintenu jusqu'à maintenant et vous pouvez choisir de basculer. Lorsque vous êtes sur Facebook a aussi appris de ses erreurs et vous pouvez dire je veux voir plus de ce contenu, moins de ce contenu. Vous pouvez même aller dans des settings, dans des paramétrages qui sont bien au fond de la plateforme, qui vous permettent de dire je veux voir la totalité des publications de A, je ne veux pas voir B, et je veux voir selon l'algorithme D'accord. C.
Donc ces choses-là sont. Pas du tout.
Ben oui, mais ces choses-là sont de plus en plus. Et je pense que là, on arrive à un point qui est clé, c'est que les plateformes sont là pour nous contenter, les plateformes sont là pour nous permettre d'être confortables.
Non, et les plateformes sont là pour nous vendre. Ah oui, non, mais. Pour nous vendre des produits. Alors, et pour avoir des annonceurs.
Alors, évidemment, parce qu'on ne paye pas. Et donc, si on ne paye pas, c'est qu'on est le produit. Mais en même temps, quand il y a une erreur qui est faite souvent quand on dit Mark Zuckerberg a préféré le profit à la santé mentale de ses utilisateurs.
C'est ce qu'a dit Frances, la lanceuse d'alerte, l'ancienne ingénieure de Facebook. C'est elle qui a dit
oui,
ça.
Parce que
c'est pas n'importe qui. Quoi.
Parce que des études de Facebook internes ont montré qu'effectivement, les jeunes femmes sur Instagram qui avaient des problèmes, on va dire, psychologiques ou qui étaient, se sentaient encore plus déprimées, en voyant des images sur Instagram par rapport au rapport à leur corps, etc. Et donc, ça a augmenté les risques de dépression et les risques de suicide, ce qui est effectivement quelque chose de factuel dans l'utilisation de ces plateformes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si Mark Zuckerberg, vous tous ici, vous avez la possibilité, nous avons tous la possibilité de faire disparaître Facebook en 20 secondes. C'est le temps qu'il vous faut pour vous désabonner. Si 3,5 milliards de personnes font ça dans la seconde, eh bien, Facebook disparaît du jour au lendemain.
Je suis contrainte de vous interrompre. Hélas, on est rattrapé par le temps. On se retrouve dans une petite dizaine de secondes. Juste le temps d'écouter ça.
On ne peut plus rien dire.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depris, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Alors, avant de continuer à échanger, merci beaucoup, en tout cas, pour cette passionnante conversation. J'aimerais qu'on écoute ensemble David Colomb, qui, lui, est un historien de la propagande et qui a récemment publié un livre qui s'appelle « Les maîtres de la manipulation » et qui s'est demandé comment est-ce que les réseaux sociaux font, justement, acte de propagande, selon lui. On l'écoute.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Facebook et tous les autres réseaux sociaux que l'entreprise détient, Instagram, WhatsApp, etc., nous manipulent ?
On peut même dire plus que cela, Facebook est une arme de manipulation massive et Mark Zuckerberg est de très loin l'empereur de la manipulation des masses. En deux mots, Facebook concentre plus d'un siècle d'acquis en matière de persuasion et de manipulation de masse, dispose de données considérables exploitées à des fins d'analyse prédictive et de micro-ciblage, et surtout bénéficie de la chose la plus précieuse au monde, le temps de cerveau disponible de milliards d'utilisateurs qui se connectent tous les jours en moyenne 50 minutes.
Est-ce que on peut dire que ce sont aujourd'hui des outils de propagande ?
Propagande lorsque ils servent les intérêts de propagandistes. S'agissant des outils de Facebook, ils ont une finalité publicitaire dans un premier temps, mais les commanditaires d'opérations de publicité sur Facebook peuvent avoir une intention propagandiste, qu'il s'agisse de défendre les intérêts d'une industrie ou qu'il s'agisse de promouvoir un candidat, qu'il s'agisse enfin éventuellement de semer le chaos dans quelque société que ce soit.
Comment est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre ou d'approcher l'impact qu'ont ces réseaux sur notre subjectivité à nous ?
En fait, pour comprendre l'impact de ces réseaux, il faut avoir à l'esprit qu'ils conjuguent trois grandes approches de la persuasion de masse. La première est l'approche par l'exposition, c'est-à-dire la possibilité d'exposer les utilisateurs à un message répété, soigneusement choisi et puis placé au bon moment de la journée. La deuxième approche est une approche psychologique qui consiste à déterminer les caractéristiques psychologiques des individus à partir des données disponibles et des outils extrêmement sophistiqués que Facebook a mis en place. Et enfin, la troisième approche est une approche scientifique qui consiste à mesurer en temps réel l'impact des campagnes. Ce qui rend l'outil Facebook particulièrement dangereux en matière de manipulation de masse, c'est précisément qu'il dispose du nec plus ultra en matière d'analyse algorithmique de nos comportements et d'analyse prédictive afin d'agir sur nos comportements.
Ça veut dire que Facebook ou les entreprises comme Instagram ou même TikTok vont segmenter leurs utilisateurs en un certain nombre de points de données. Sur TikTok, par exemple, on sait que c'est plusieurs dizaines de milliers. Et à partir de ces points de données, ils vont essayer de prédire comment on va se conduire. Et à partir de ces prédictions, nous faire soit de la pub ou même des pubs politiques pour influencer nos comportements. Est-ce que c'est ça ?
Absolument. Shoshana Zuboff parle d'un marché des comportements futurs à travers ce capitalisme de surveillance. Très concrètement, cela consiste en effet à prédire nos comportements futurs et à concevoir les outils de persuasion qui permettent de rendre probable le comportement que l'on souhaite. Facebook est d'autant plus puissant en la matière et ses différents outils et d'autres, ce TikTok que vous avez cité, que leur approche consiste à segmenter le marché non plus sur des bases classiques en marketing publicitaire, la localisation, le niveau de revenu, le niveau d'études, mais sur des bases psychologiques, en ciblant la fragilité des individus, en ciblant les biais cognitifs, en ciblant tout ce qui nous rend profondément humains et parce que nous sommes humains, accessibles à la persuasion et à la manipulation.
Ça veut dire que la pub que j'ai vue par exemple, ce matin sur Instagram, elle a été ciblée pour moi, pas parce que je suis femme, la trentaine, mais parce que je vais être targetée comme, je sais pas, anxieuse ou impulsive.
J'ignore tout de votre personnalité, mais je sais en revanche que les outils sont conçus pour cibler vos caractéristiques personnelles, aussi bien vos caractéristiques de personnalité que vos caractéristiques émotives. La force de ces persuasion moderne, c'est qu'elle a percé le secret le plus redoutable et le plus ancien de la persuasion, qui est le kairos. Le moment décisif pour entreprendre de persuader quelqu'un. C'est quelque chose de très difficile à déterminer. Quel est le bon moment pour demander une augmentation à son patron ? Personne ne le sait. En revanche, les outils permettent désormais de cibler précisément les individus, pas tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle d'un cluster. Nous sommes ciblés en tant que nous appartenons à un ensemble d'individus qui ont des caractéristiques semblables, mais avec des chances de succès d'autant plus fortes que les outils permettent en temps réel de mesurer l'impact de chacune de ces publicités.
On a automatisé le kairos.
Il y a une forme d'automatisation du kairos, d'automatisation de la persuasion. Ce que l'on appelle l'intelligence artificielle repose sur trois grandes approches. Une approche inductive par inférence statistique sur la base des données disponibles, où l'on prédit les caractéristiques d'un individu et son comportement probable. Une approche déductive qui consiste à élaborer des hypothèses et à les tester sur ses utilisateurs, ce que tous les géants du numérique font à l'endroit de leurs utilisateurs. Et puis une troisième approche qui consiste à identifier un certain nombre de caractéristiques, des émotions par exemple, par le recours à l'apprentissage profond qui décrypte nos photos, qui décrypte également nos textes, la vitesse à laquelle on saisit un texte sur notre clavier.
Mais au-delà des effets de la pub ciblée ou même des pubs politiques ciblées, à quel point le fonctionnement des réseaux sociaux et le fait d'y passer tous tant de temps a une influence sur notre vie même hors ligne ? À votre avis ?
Eh bien, J'apporte une partie de la réponse, je crois, dans le livre, à travers le portrait de Brian Jeffrey Fogg, qui est l'inventeur de la technologie persuasive, c'est-à-dire d'outils qui ont précisément été conçus pour permettre de rendre les individus accros à leurs outils numériques. On a des ingénieurs de la Silicon Valley, dont des élèves de Brian Jeffrey Fogg, ont, pour le compte des géants du numérique, à commencer par Facebook, développé une série de techniques qui hackent le cerveau humain pour détourner un certain nombre de processus physiologiques tels que le circuit de la récompense dopaminique à des fins addictives. Il s'agit de nous rendre addicts. Il s'agit de nous engager dans des actions à travers les réseaux sociaux. Il s'agit de nous encourager à cliquer sur un lien. Il s'agit parfois de nous encourager à ne pas agir également.
Moi, j'ai l'intuition, moi, dans le fond de mon cœur, que la société serait moins polarisée, même dans nos cercles intimes, nos cercles amicaux, sans les réseaux sociaux.
Vous avez tout à fait raison, Judith. Les études disponibles montrent que les réseaux sociaux, par essence, contribuent à la polarisation de la société. Car la segmentation est en même temps une segmentation tribale. Il s'agit de déterminer les groupes dans lesquels nous évoluons. Il s'agit de déterminer celles et ceux qui nous influencent. Il s'agit d'agir sur nos comportements à travers nos groupes et notre identité. Il s'agit aussi de nous pousser à nous identifier, à nous rattacher à un certain nombre d'identités concrètes ou symboliques, de sorte de rendre toujours plus parfaite, si j'ose dire, la publicité ciblée qui nous est adressée.
Et même si la fonction bloquer n'existait pas, j'ai l'impression que ça favorise aussi parfois à prendre des décisions dans la vraie vie, à se dire je veux bloquer. Cette expression s'est développée. Est-ce qu'on peut bloquer dans la vraie vie, etc. Ça pousse aussi à prendre des décisions très radicales.
Le cœur de cette dynamique de persuasion repose sur le contournement de nos processus réflexifs. Il s'agit d'en appeler à nos affects, à nos réactions intuitives et instinctives. Il s'agit de nous conduire à nous engager dans des actions avant même de réfléchir aux conséquences de nos actes. Et cela se traduit nécessairement, inévitablement et de façon assez atroce pour nos sociétés démocratiques, par un ensauvagement de nos relations sociales, par une brutalisation concrète que vous venez d'évoquer à travers ce phénomène du blocage.
Est-ce que c'est possible de penser par soi-même ?
Certains persuadeurs de masse considèrent que le libre arbitre est une illusion. C'était le cas, par exemple, de grands penseurs spécialistes du comportementalisme radical, tels que M. Skinner, qui considérait que nous devions bien admettre que, bon an mal an, nous étions nécessairement influencés par les autres. Et qu'à partir de là, il était logique et quelque part éthique de sa part de circonvenir notre libre arbitre en concevant des outils pour nous transformer en des rats de laboratoire confrontés à un levier qui nous distribue de la nourriture dans sa fameuse boîte de Skinner, nous rendre accro et influençable. L'enjeu pour nous est celui-là. Il est celui du libre arbitre. Pouvons-nous encore maintenir notre libre arbitre face à des outils de plus en plus performants, de plus en plus envahissants, de plus en plus addictifs, qui ont précisément pour objet de nous empêcher de penser et d'agir par nous-mêmes.
Merci beaucoup, Monsieur Collomb. C'était très intéressant, un tout petit peu effrayant, mais très intéressant. En tout cas, nous, on essaye de continuer à penser par nous-mêmes.
Merci à vous.
Voilà. Ce que je trouve fou, moi, quand on s'interroge en fait à la question des réseaux sociaux, qu'on soit d'accord ou pas, c'est que ça pose la question philosophique, j'ai l'impression, de comment on fait pour essayer de penser encore par soi-même aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, Guilhem ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire penser par soi-même ? On est des êtres sociaux, hein. Donc nous sommes des êtres sociaux et nous ne vivons que par.
Donc on peut pas.
Nous ne vivons que par l'imprégnation de notre environnement et de tout ce qui nous entoure. Donc ça commence par nos parents, ça continue pendant l'éducation. Donc la question, c'est quelles sont justement ces sources que nous mettons en face de nous. Les réseaux sociaux font partie de ces sources-là. Et donc la question, c'est comment est-ce que l'on gagne en mobilité, comment est-ce qu'on s'assure que l'on va pouvoir diversifier au maximum. Et après, on retombe sur des problématiques qui sont des problématiques de la sociologie qui existent depuis très longtemps.
Est-ce que pour déjouer, par exemple, ces algorithmes de bulles de filtre, il faut se forcer à aller liker toutes les pages Facebook des politiques avec qui on n'est pas d'accord, ou aller les suivre sur Instagram pour que quand même on soit encore... Je sais pas, qu'on voit qu'il y a encore des gens qui pensent pas comme nous dans le monde. Est-ce qu'on en est réduit à ça pour essayer de sortir de ces bulles ?
En fait, en réalité, on est exposé à de la diversité. C'est-à-dire que ici, strictement personne ne vit que sur les réseaux sociaux. Et donc, vous êtes toujours, vos sources primaires d'information restent en grande majorité, contrairement à ce qu'on dit, restent la radio, la presse, la télévision, sur laquelle il y a effectivement des intermédiaires qui sont là pour faire un travail de filtre, qui sont les premiers algorithmes, les journalistes, et qui sont là pour essayer de donner une vision effectivement la plus diverse du monde. Même si les médias, on peut avoir tendance effectivement...
Oui, mais on a toujours tendance à dire aux gens justement, essayez d'avoir plusieurs sources d'information, suivez plusieurs journalistes, etc.
Démultiplier les sources. Et on n'a jamais été aussi mobile, en fait, en réalité, en tant que citoyen. C'est-à-dire que ce qui est toujours un petit peu paradoxal dans ce que l'on vient d'entendre comme type d'argumentaire, c'est que quand on entend ça, on a l'impression que l'humanité entière peut être entièrement dirigée par Facebook. Alors, une première chose, et par les algorithmes. Moi, je suis ingénieur, j'ai créé une entreprise qui développe sur ces choses-là. Je peux vous assurer que c'est pas très compliqué, mais une fois qu'on enlève le côté magique de l'intelligence artificielle, en fait, ces algorithmes sont extrêmement bêtes. Et donc, tout ce que l'on nous promet de manipulation des masses, nous en sommes à des années-lumière. Non, on n'est pas capable de savoir si vous êtes anxieux au moment où vous parlez ou vous êtes triste, on est capable aujourd'hui de savoir que globalement, vous aimez bien tel type de chaussures, que vous vivez plutôt dans un milieu urbain et que vous aimez plutôt la K-pop et que vous roulez en SUV. Voilà. Et ça, ce sont des choses effectivement qu'on sait, c'est-à-dire qu'on est capable de cibler les gens de manière affinitaire et non plus de manière purement socio-démographique.
Elvire, je vous vois réagir.
Oui, non, oui. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord pour avoir, hélas, un métier autre que d'être sur Instagram pour gagner de l'argent. Je fais aussi du web marketing et du coup en fait je trouve quand même que l'algorithme est plus intelligent que ce que vous dites parce qu'en fait il y a vraiment typiquement sur Facebook il y a la possibilité enfin parce que toutes les publicités qu'elles soient sur Instagram ou sur Facebook passent par Facebook, il y a la possibilité notamment de dire bah tiens je vais faire pour le podcast Binge Audio je vais faire trois pubs différentes, une en rose, une où je vais dire un slogan négatif, une où je vais passer plus par un truc positif et on ne sait pas exactement comment, mais Facebook calcule de lui-même quelle est la pub qui fonctionne le mieux sur quel type de personne. Donc, il y a quand même clairement une manipulation en fonction de est-ce que tu es impulsif, pas est-ce que tu suis plutôt tel type de compte. Je ne sais pas comment c'est calculé, mais en tout cas, le fait est qu'ils ne vont pas montrer les mêmes pubs. Je peux, moi, en tant qu'annonceuse, montrer différentes pubs pour un même produit et Facebook se charge de rendre ces différentes pubs-là les plus efficaces possibles en fonction de si tu es anxieuse, insomniaque, etc.
Et d'ailleurs, il y avait une étude qui était sortie après l'affaire Cambridge Analytica, indiquant que si on prenait, je crois, c'était 17 des pages Facebook que vous avez likées, on était capable de déduire votre orientation sexuelle, votre âge, si vous aviez déjà pris de la drogue. Enfin, ces études-là, elles existent, c'est pas que des incantations. Donc, vous pensez que ces chercheurs se trompent ?
Ah non, pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il faut faire attention, en fait, sur le pouvoir véritable de ces algorithmes et de ce qu'ils savent de nous. Ce que vous citiez, par exemple, c'est du A/B testing. Dans l'univers depuis 60 ans et l'explosion du marketing, toutes les publicités que vous voyez à la télévision ont été testées en pré-test et on a choisi une copie qui va être différente. Lorsque vous êtes à Paris, vous voyez pas la même chose dans le métro que lorsque vous vivez dans le Larzac.
Mais ça reste de la manipulation. Et enfin, le métier de la publicité, c'est de la manipulation.
Alors, après, c'est la question, vrai. Voilà.
Il peut y avoir des pubs pour UNICEF et c'est très bien, mais c'est juste que le but même, c'est de manipuler les personnes pour obtenir, en fonction du choix, un achat, un clic, un abonnement.
De toute façon, je pense que ça sert à rien de s'épuiser dans le débat. Est-ce que dans la vraie vie, le monde est horrible ? Est-ce qu'il est pire que sur les réseaux sociaux ? Oui, que ce soit hors ligne ou en ligne, il se passe des choses belles et moins belles. La question à laquelle j'aimerais qu'on essaie de trouver une réponse dans le temps qui nous reste, c'est comment on fait pour être un utilisateur pas totalement passif de ces réseaux ? Comment on fait pour en avoir une utilisation intéressante ?
Bah, je pense qu'il y a plusieurs options. Moi, j'ai fait une expérience récemment. Je me suis fait d'autres comptes Instagram sur lesquels j'ai donné des mauvaises informations sur qui j'étais, enfin mon sexe, mon âge, etc. Et surtout, j'ai décidé en fait de faire comme des chaînes où, par exemple, je vais avoir un compte qui est abonné à plein de sites qui parlent de sexualité, etc. Enfin, de pages. Je vais en avoir un autre pour regarder les chatons mignons, un autre pour aller voir ce qui se passe des côtés des masculinistes. Et en fait, du coup, ça fait que au moment où je vais sur Instagram, je sais pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je veux voir, et je me balise sur ça, ce qui, moi, en tout cas, m'aide à pas rentrer dans un vortex infini. Mais je pense qu'en fait, il y a...
D'ailleurs, c'est ce que font assez spontanément les ados. Ils ont tous plusieurs comptes Insta, plusieurs comptes TikTok qui correspondent à chacun l'une des facettes de leur identité.
Ouais.
Comment faire ?
Ce dont on parle, en fait, finalement, on parle de culture numérique ou de culture digitale. Et ce terme, il est fondamental. On est sorti de 50 ans à peu près de domination du média télévisée. Les générations après les baby boomers ont gagné de plus en plus en culture critique des médias. Aujourd'hui, tout le monde a une très bonne culture critique des médias, économique, sociologique, et va être capable de comprendre comment les médias de masse que l'on connaît fonctionnent. TF1 appartient à Bouygues, France Télévisions, c'est du service public. Ça, c'est des choses que tout le monde sait. Quand on demande, par contre, comment fonctionnent les résultats renvoyés par Google, comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, comment fonctionne Facebook, qui paye ? Qui paye? Quand je pose, moi, je pose toujours cette question à mes étudiants à Sciences Po depuis 11 ans. Je commence toujours en leur disant « qui paye sur Instagram ?» Je leur demande « qui paye à la télé ?» Alors là, ils le savent. Et quand je leur dis « qui paye sur Instagram ?», ils me regardent avec des yeux ronds. Je leur dis « c'est pas vous, donc. » Oui. Et pourtant, les serveurs, ils coûtent très cher. Les ingénieurs, il faut les payer. Vous y passez 2 heures par jour. Pour aller dans un cinéma, voir un film d'une heure et demie, vous payez 15 euros. Vous payez zéro
donc
pour 2 heures par jour.
Mieux connaître le fonctionnement des réseaux, c'est comme ça qu'on peut en avoir une
en
utilisation.
Fait, il faut déjà avoir une culture minimum pour comprendre exactement quels sont les mécanismes et quels sont les modèles économiques. Les mécanismes techniques qui construisent ces outils-là, quels sont les modèles économiques qui sont derrière ces outils-là et dans quelle position on se trouve. Quand on est sur Instagram, si on ne paye pas, on est le produit. Donc, c'est nous qui sommes exploités. À partir du moment où vous sortez votre carte bleue et que vous commencez à payer, c'est vous le client. La différence entre votre iPhone et Facebook. Apple dit se battre pour la liberté, pour la protection des données personnelles alors que Facebook est soi-disant en train de la détruire. La raison est simple, vous payez votre iPhone 1000 euros, vous donnez de l'argent à Tim Cook pour qu'il protège votre vie personnelle.
Oui, on ne sait même pas si c'est vrai.
Oui, alors, mais en tout cas, ils se battent un petit peu plus.
C'est un peu la guerre entre Facebook
et l'iPhone.
Oui, c'est ça, mais personne, enfin, on ne sait même pas si c'est vrai. Enfin, on n'est même pas en capacité d'aller leur demander est-ce que c'est vrai.
Alors, vous parlez effectivement des questions d'être comptable, et là, c'est là où la question des institutions et de la nécessité aujourd'hui du politique à venir poser des règles.
Il y a un exemple qui est donné que je trouve assez intéressant, justement. Aujourd'hui, par exemple, vous connaissez pas la recette du Coca-Cola parce que c'est un secret commercial. On estime que si tout le monde la connaissait, ce serait injuste parce que eux, ils l'ont inventé, c'est un succès. Mais il y a quand même une autorité qui allait vérifier qu'a priori, ça va pas vous empoisonner ou pas vous empoisonner tout de suite, que ce que vous buvez, ça vous tue pas. Aujourd'hui, ce qui se passe collectivement avec ces outils, c'est que personne va vérifier si ces algorithmes ne sont pas en train de nous rendre tarés. Personne.
C'est un peu le but de l'assignation qu'on fait de Facebook. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'était de dire nous, on constate qu'il y a une modération qui se révèle sexiste, raciste, etc. Je ne dis pas qu'il y a un monsieur Zuckerberg qui est en train de se dire « Ah, tiens, elle, c'est une féministe, c'est méchante, je vais la censurer. » Mais le fait, c'est potentiellement parce qu'on n'est plus signalé, on n'est plus machin. Mais la question, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, nous, là, ce qu'on est en train de faire, c'est...
Vous étiez 14 influenceurs et influenceuses qui ont déposé une action en justice justement contre Instagram pour savoir pourquoi certaines images étaient supprimées ou shadowbannées. Shadowbannées, ça veut dire l'outil vous laisse continuer à publier vos images, vos posts, vos stories, mais il les montre à quasiment personne. Donc du coup, si votre business il marche sur Instagram, c'est un peu une condamnation à mort, c'est excessif, mais
quasiment.
Quasiment, voilà.
Ouais. Disparaître.
Et ce dont se sont rendus compte certaines activistes et influenceurs, c'est que parmi les gens qui étaient souvent shadowbannés ou supprimés, il y avait beaucoup de personnes, soit parfois des personnes grosses, des personnes trans, enfin les personnes souvent qui dérangent, quoi.
Exactement, les personnes qui vivent de façon générale plus de violence hors ligne aussi. Et du coup, l'idée, c'était de dire, OK, on veut une médiation pour pouvoir parler et pour pouvoir surtout avoir accès à ce système de modération. Comment est-ce que vous modérez ? Et je ne vais pas rentrer dans le sujet parce qu'il est très long, mais en fait, on sait très bien que les dernières personnes qui valident la chose sont des êtres humains, probablement au Bangladesh, qui ne lisent pas le français et qui ont 50 secondes pour répondre à 50 publications oui, non, oui, non, qui vivent dans... Enfin, en fait, il y a aussi ce problème-là de la manière dont la modération est organisée aujourd'hui n'aide pas non plus... n'aide pas non plus la situation.
D'ailleurs, il y a un programme B de Binge Audio sur la solitude du modérateur, je crois, si vous avez envie d'en savoir plus.
Toutes les industries aujourd'hui sont encadrées et sont modérées par des institutions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui des réseaux sociaux. Il y a un retard aujourd'hui du politique dans la compréhension de ces univers-là. Il y a des problématiques de santé publique qui se posent, de la même façon qu'il y a des problèmes de santé publique lorsque vous mangez du Nutella. Tout le monde adore le Nutella, mais on sait très bien qu'à une certaine dose, ça peut devenir mauvais. Eh bien, on n'a pas aujourd'hui cet élément-là. Et c'est vrai que vous insistiez sur ce point-là. La question de la transparence, de la lisibilité des algorithmes, et du moins que les algorithmes soient contrôlée par des organismes indépendants, étatiques éventuellement, qui permettent de dire si derrière ils représentent un danger potentiellement pour la santé mentale des individus, est un progrès immense vers lequel on devrait aller. On voit quand même que ça va assez vite. Aux États-Unis, qu'on voyait les premières auditions devant le congrès de Mark Zuckerberg, des sénateurs qui ne comprenaient strictement rien à Internet, il fallait, enfin je dis Internet de façon large, parce qu'ils ont quand même demandé, à un moment, ils ont demandé à Mark Zuckerberg, mais comment vous gagnez de l'argent en fait ? Il a fallu qu'il explique aux sénateurs comment ils gagnaient de l'argent. Et quand on voit les dernières auditions qui datent d'il y a quelques jours avec Frances Haugen, on voit qu'il y a un progrès très très rapide. Et les Américains commencent à dire, ah mais en fait on est dans la même situation que lorsqu'il a fallu encadrer l'industrie du tabac. Eh bien voilà, on arrive au même moment, l'industrie de l'alcool. Eh bien, on arrive un peu à ce même moment qui est un moment clé, c'est le tobacco moment, les Américains parlent de ça en ce moment, c'est de dire, bah en fait, on va peut-être devoir vous réguler. Et les plateformes le disent, mais ce que dit Mark Zuckerberg, c'est réguler nous, mais faites-le pour tout le monde, et pas seulement demandez-moi de faire cette régulation, moi tout seul chez Facebook, parce que je suis au devant de l'écran, et derrière, il y a TikTok, il y a Snapchat, etc.
Merci
il
beaucoup.
Est pas plein,
non, on va pas plein de marques. Merci, merci, chers amis, je suis obligée déjà de mettre fin à cette conversation, c'est passé extrêmement vite. Et pour répondre à notre question de départ qui était « Votre téléphone a-t-il aspiré votre âme ?» Je crois, hélas, d'être obligée de répondre que oui, un petit peu. À la fin de cette conversation, je me dis oui, un petit peu. Pour le pire, mais peut-être, comme on l'a entendu, pour le moins pire. Et peut-être qu'on va réussir dans les années suivantes pour le meilleur. Rassurons-nous, cependant, rien de plus banal. Chaque génération, chaque humain doit chaque jour se battre pour garder le contrôle de son âme. La liberté n'est qu'un combat. Mais bonne nouvelle, car notre âme et notre liberté est extensible à l'infini et il existe un remède efficace et gratuit pour la faire grandir, c'est de débattre, de lire ou encore d'écouter des podcasts. Et voilà, c'est déjà la vraie fin. Merci beaucoup, on aurait pu continuer à parler pendant des heures. Un immense merci Guilhem Futiyou, un immense merci Elvire Duvert Charles. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis, sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine, et d'ici là, surtout, allez liker les pages Facebook des gens que vous n'aimez pas, et gardez votre âme grande ouverte.
On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire.
Ah bon?
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée. Et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.